France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe, nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec de la musique américaine aujourd'hui, celle de Lowell Lieberman ou celle de Steve Reich tout de suite. Sa patte.
Ah, mais
ce
évidemment, c'est Steve.
Steve Reich avec l'une des plus grandes percussionnistes de son temps, la japonaise Kuniko Kato, une grande défenseuse de la musique de son temps et particulièrement de celle de Steve Reich, un compositeur qu'elle connaît bien, qu'elle a déjà enregistré. D'ailleurs, vous m'avez dit, Rodolphe, mais je ne sais pas combien de disques elle a consacré à ce compositeur.
Ces projets où elle a toujours les cheveux dans le vent.
Ah oui, ça c'est vrai qu'elle elle tourne toujours la tête avec les cheveux dans le vent, absolument. À chaque fois, c'est un énorme succès et elle s'est imposée comme une interprète majeure donc de ce compositeur. 4 œuvres ici qu'elle a parfois arrangées avec l'accord de Steve Reich, comme ce Piano Phase que vous avez entendu, donc d'abord écrit pour 2 pianos. Reich en a laissé une version pour 2 marimbas et avec son accord, Kuniko en offre un nouvel arrangement pour 2 vibraphones et elle joue évidemment les 2 parties. Le disque s'achève par Mallette Quartet, une œuvre pour 2 marimbas, 2 vibraphones, créée en 2009, et donc la voici.
Thank you.
Ballet Quartet, c'est une œuvre d'une dizaine de minutes, presque un quart d'heure. Il y a trois parties. Donc vous avez entendu la première partie de cette œuvre de Steve Reich, jouée par Kuniko. C'est notre disque du soir à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr. Vous aimez la musique de Steve Reich, hein ?
Oui, beaucoup.
France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et maintenant, j'ai envie d'entendre votre choix du soir, Rodolphe.
Le voici. On est presque dans l'univers de la pop avec Hélène Andrea Wang. Je ne sais pas si vous connaissez cette musicienne, Émilie. Elle a un parcours plutôt singulier. Elle est contrebassiste de jazz. Voix de velours, nous dit-on, elle chante beaucoup dans les clubs de jazz. Elle est née en 86 en Norvège. Le chant lui permet aussi de s'exprimer clairement sur des sujets qui lui sont chers à travers des textes qui évoquent l'amour, la foi, l'engagement citoyen et écologique, nous dit-on. Elle n'est pas la seule en ce moment à s'intéresser à ces thèmes. Alors si la musicienne est très connue dans les milieux du jazz, on l'entend souvent d'ailleurs dans les clubs et elle avait été invitée à la Philharmonie de Paris lors d'une série de jazz, on découvre ici son œuvre écrite pour chorale, ensemble plutôt des œuvres vocales, avec toujours quelque chose qui nous rappelle le jazz. Ici on a entendu la contrebasse, dans les œuvres qu'on va entendre il y a le saxophone aussi. Et donc voici l'univers de Hélène Andrea Wang.
Thank you.
C'était la musique de Helen Andrea Wang, musique norvégienne, musicienne norvégienne. On a entendu ici son œuvre chorale. Est-ce que vous voyez comment est la pochette de ce disque un peu psychédélique avec plein de couleurs dans les roses, violets. Et c'est le Gvindeling Sundanter Sangfering.
C'est vrai, je les ai reconnus. Et bon, on vous remercie pour la description de cette pochette, Rodolphe, la description
et
de cette musique.
Et vous trouvez toutes les références sur le site internet.
Alors, un disque dont on a déjà parlé dans notre En Piste quotidien, on le doit au trio Révolution, trois musiciens géorgiens qui se sont rencontrés à Vienne, flûte, violoncelle, piano. Un disque au programme assez étonnant, on y trouve un trio de Haydn, un trio de Capustin, ce musicien qui a été très influencé lui aussi par le jazz,
absolument,
justement. Et puis le deuxième trio de Lowell Lieberman, compositeur américain né en 1961, auteur de symphonies, d'opéras et puis de nombreuses pages de musique de chambre pour flûte, des sonates, plusieurs concertos dont un commandé par le célèbre James Galway que vous connaissez si bien.
Et moi aussi, c'est sûr.
Tous les flûtistes sont d'accord, il écrit merveilleusement pour cet instrument et donc son deuxième trio a été créé à Nashville en 2004. C'est une œuvre en forme de labyrinthe rythmique avec beaucoup de motifs qui apparaissent, qui tournent sur eux-mêmes. Un petit clin d'œil à Poulenc aussi, à mon avis, vous avez entendu le motif de flûte à l'ouverture qui rappelle celui de la sonate de Poulenc. Alors l'œuvre dure 20 minutes, on va en écouter un extrait, le début. Thank you. Le début du deuxième trio pour flûte, violoncelle et piano de Lowell Lieberman. C'est donc ce deuxième trio opus 87 qu'enregistre le trio Révolution.
France Musique. En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Calling, c'est la musique de Martin Csiba. C'est une personnalité que j'aime bien. C'est un musicien hongrois, né en 1982. Il a fait toute sa carrière en Allemagne. C'est un pianiste-compositeur qui mène vraiment une double carrière. Il peut très bien enregistrer les œuvres de Brahms ou Schoenberg, ainsi que sa propre musique ou ses partitions électroniques qui interrogent, qui n'ont presque rien à voir avec le piano et qui sont d'une belle modernité. C'est un musicien fantasque aussi. Il écrit les textes de présentation ici dans son disque, très intéressant, qui pose les bases d'une réflexion sur l'avenir du disque et notamment l'utilité des textes pour présenter les œuvres. Alors, premier conseil de ce musicien, ne rien lire avant d'avoir écouté le disque.
Ah.
C'est son premier conseil. Ensuite,
c'est pas souvent ce qu'on nous dit.
Non.
La plupart aime bien préciser,
oui,
justement.
Absolument. Et donc après, vous ouvrez le livret. Donc ça, c'est sur la pochette. Vous ouvrez le livret, il n'y a rien dans le livret.
Ah.
C'est une petite blague. Et finalement,
d'accord,
il y a un QR code qui vous permet de tomber sur un texte qui est plus qu'un texte, puisque c'est presque un livre sur sa musique.
Okay.
Donc c'est assez étonnant. Et à la fin, une fois que vous avez tout parcouru, il vous dit avec un peu d'humour, vous avez fini de tout lire, et bien voici la version courte maintenant.
Ah.
Et là, vous pouvez retélécharger une version encore plus courte de ses notices
ça
de présentation.
Ça vous a pris du temps alors de faire tout ça.
Ça m'a pris du temps et finalement peut-être moins quand même que d'écouter sa musique qui, elle, est pleine d'énergie. Martin Csiba.
Thank you.
Martin Tshiba, étonnante musique ici pour électronique, enregistrée par ce musicien hongrois.
C'est le moment de retrouver le journal de la création de Laurent Villarem.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie. On apprenait la semaine dernière la mort de Joséphine Markowitz, directrice musicale du Festival d'automne depuis 1976 et figure essentielle de la création de ces 50 dernières années. Joséphine Markowitz a commandé nombre de chefs-d'œuvre, elle a soutenu d'innombrables compositeurs et compositrices et invité des musiciens du monde entier. On commence tout de suite cet hommage en écoutant sa voix. Joséphine Markowitz est l'invitée de Lionel Esparza dans l'émission Classic Club en 2015.
Ce qui m'a beaucoup intéressée, évidemment, c'est la relation sacrée, profane, croyance. Et nous, on ouvre le programme musique, ou le programme choré, en tout cas, du Festival d'automne, cette semaine, dimanche, avec une chamane. C'est une musique qui est supposée amener à un certain état, je n'irais pas trans, mais en tout cas, quitter un petit peu
le triste quotidien.
Oui.
En quelques mots, on retrouve peut-être ici ce qui fait la particularité des concerts exceptionnels du Festival d'automne. L'ouverture au monde, la transe. Mais laissons l'un des compagnons de route de Joséphine Markowitz, le musicologue Laurent Fénéroux, nous dire quelques mots sur elle.
Ce dont je voudrais témoigner, c'est de l'engagement, de l'enthousiasme, de la puissance de conviction, de la fidélité à des valeurs et à des personnes, de la recherche constante à travers le monde de quelque chose d'inouï et de bouleversant qui modifie nos a priori et dont le partage était l'horizon. Joséphine Markowitz avait une réticence à parler de musique contemporaine. La musique ne se qualifie pas, elle est. sous de multiples formes, bien évidemment, mais qui ne s'exclut pas et qui appelle entièrement. Il n'y avait pas chez elle, je crois, de distinction entre l'art et la vie. Elle a contribué au plus haut niveau à établir la reconnaissance de figures tutélaires de la modernité aujourd'hui, notamment dans leurs projets les plus radicaux, à redécouvrir, réécouter, réévaluer des œuvres rares ou marginales du dernier demi-siècle, à découvrir inlassablement de nouvelles voies, et à inscrire ces figures dans l'histoire de la musique, dans un dialogue à travers les siècles et la géographie qui renouvelle aussi notre perception des traditions. Nous sommes les contemporains de créateurs et de créatrices, comme pouvaient l'être les Viennois du temps de Beethoven, Schubert. Elle a donné à entendre aussi des musiques d'ailleurs, et la liste est longue des continents et des pays traversés à la recherche de musiciens. En somme, la bonne œuvre donnée par les bons interprètes dans la bonne salle.
Parmi les concerts inoubliables du festival d'automne, on songe très récemment aux opéras du cycle Licht de Karl-Heinz Stockhausen, donné par le balcon. Sans Joséphine Markowitz, il n'aurait pas pu être monté. Joséphine Markowitz a mis à l'honneur les grandes figures du XXe siècle, Nono, Courtag, Lachenmann, mais elle a également accueilli la nouvelle génération de compositeurs et compositrices, Marc-André, Olga Neuwirth ou encore Gérard Pesson, qui nous offre ici son témoignage pour Joséphine Markowitz.
Joséphine Markowitz, c'était une personnalité vraiment hors norme, programmatrice de très grande classe, respectée dans la profession internationalement. Et j'ai adoré observer comment elle travaillait. Et ce qui me frappait, c'était son énergie. Elle avait une détermination, une exigence. Par exemple, sa façon de contrôler les étapes d'une création. Alors, depuis l'œuvre nouvelle, rêvée, et on peut dire qu'elle a commandé un paquet de chefs-d'œuvre, et ça jusqu'au moindre détail sur le plateau le soir du concert. On pourrait dire qu'elle concevait ses programmations, je ne sais pas moi, comme un chef étoilé qui invente une nouvelle carte, ou comme un couturier qui prépare un défilé. Un mélange d'instinct, d'audace, de risque, en provoquant des rencontres entre les mondes, entre les arts, en découvrant bien sûr toujours des nouveaux talents. Elle avait une très grande place dans la vie de beaucoup de musiciens et de musiciennes, et on va rester vraiment désorienté sans elle.
On termine cet hommage par les mots pleins d'émotion de la compositrice italienne Clara Janota, qui parle de la place essentielle qu'a eue Joséphine Markowitz dans sa vie d'artiste.
Joséphine Markowitz a eu un impact monumental sur ma vie. Avant même de la rencontrer, ses programmes au Festival d'automne m'ont ouvert les portes à une multitude de musiques que je n'avais jamais entendues avant. Alors que j'étais encore étudiante au Conservatoire de Paris, elle m'a offert ma première commande pour l'ensemble contemporain au Festival d'automne. Et depuis, elle m'a toujours soutenue. En février 2023, elle m'a appelé au téléphone. Il était déjà malade, sa voix était à peine audible et je n'arrivais pas à comprendre tout ce qu'il disait. Mais il tenait à m'annoncer en direct que pour son dernier festival, celui de cette année, en 2024, il souhaitait que je sois la compositrice en focus. 10 ans après ma première commande qui a lancé ma carrière, me voilà de nouveau au Festival d'automne. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je ne pourrai pas partager ces moments avec elle. Je lui dois non seulement la compositrice que je suis aujourd'hui, mais elle a aussi inspiré ma manière de programmer. Elle m'a enseigné à prendre des risques, à croire dans la musique, même lorsque nous sommes les seuls à y croire. Elle a créé et influencé la scène musicale française et internationale au cours des 50 dernières années, laissant des traces éternelles. Et donc merci beaucoup, ma chère Joséphine.
Un extrait d'Orsing de Clara Janota, qui sera la figure principale du Festival d'automne en septembre. Joséphine Markowitz vient de nous quitter à l'âge de 77 ans. On retrouve l'actualité avec le festival Musique démesurée qui se tient à Clermont-Ferrand du 29 avril au 5 mai. Au programme des œuvres d'Eliane Radig, John Luther Adams, David Lang, de très très belles choses. Et deux concerts de Marie Ithier, l'une des violoncellistes les plus actives dans la création d'aujourd'hui. Marie Ithier offre le 3 mai à Clermont, avec Arne de Force, le concerto pour deux violoncelles de Bastien David, L'ombre d'un doute, avec l'Orchestre National d'Auvergne, dirigé par Jean Desroyers. Et le 4 mai, toujours à Clermont, un récital solo avec une pièce de Matteo Gualandi, qu'elle a enregistrée avec le concerto de Bastien David, dans un disque à paraître dans les prochains jours chez B-Records. On appelle la violoncelliste. Bonsoir Marie Ithier.
Bonsoir Laurent.
Quelles sont les particularités des compositeurs et compositrices que vous interprétez au Festival Musique démesurée de Clermont-Ferrand ?
Eh bien, déjà, c'est des imaginaires forts qu'ils ont chacun d'eux, beaucoup de liberté, un souci de l'instrument aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont proches de la tradition instrumentale, malgré tout, malgré une grande originalité et quand même qui font partie de l'avant-garde, et puis une approche systémique, c'est-à-dire que on travaille vraiment ensemble dans le processus de création, avec des esquisses, des allers-retours. Et en fait, chacun de nous a une expertise, mais on appartient à un même système pour qu'à la fin, l'œuvre soit créée. Et c'est également le cas, c'est-à-dire qu'ils écrivent pour moi, en l'occurrence pour le concerto de Bastien David, il a aussi écrit pour l'Orchestre National d'Auvergne. En fait, cette dynamique-là permet que chacun soit vraiment dans l'énergie de l'œuvre à paraître, quoi. Là, ils y appartiennent tout à fait. Dans le cas de Bastien David, c'est vraiment une musique qui est extrêmement poétique, assez détachée de l'anthropocène, je dois dire. Lui est allé en Italie et dans l'océan Indien pour composer la pièce. C'est-à-dire que c'est vraiment effectivement sur mesure, parce que moi j'ai des origines italiennes et mauriciennes. Donc c'est vraiment inspiré aussi de ce que moi je représente pour eux. Et dans le cas de Matteo Gualandi, c'est une pièce... Lui, par exemple, il aime beaucoup la musique baroque, c'est aussi mon cas, donc vraiment un violoncelle résonnant. C'est très issu du Quattrocento, c'est très imagé. On retrouve beaucoup la Renaissance et l'Italie baroque. Et encore une fois, je pense qu'il s'est aussi inspiré de mes goûts et de mon jeu pour écrire cette pièce. Voilà, je jouerai aussi une œuvre de Shu Han Hu, qui est une chinoise, ça c'est dans le récital du 4 mai, et qui a écrit pour moi également une magnifique pièce. Voilà, c'est une compositrice que j'ai rencontrée à Shanghai. Donc, dans la même démarche, vraiment des pièces qui sont écrites et nourries de l'interprète qui les inspire, je pense.
Merci beaucoup, Marie Ithier.
Je vous en prie, merci Laurent.
De l'ombre d'un doute de Bastien David, concert de Marie Ithier les 3 et 4 mai au festival Musique démesurée de Clermont-Ferrand.
Merci Laurent, à la semaine prochaine.
Merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Emmanuel Morse-Duncan ce soir et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.